Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahman Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel du jeudi 15 février 2018 au sommaire. Cyril Ramaphosa prend les rênes du pouvoir en Afrique du Sud après la démission forcée hier de Jacob Zuma.
Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays.
Démission surprise du Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Dessalegn. Au Sénégal, procès de Khalifa Sall, l'État du Sénégal réclame plus de 10 millions d'euros au maire de Dakar. Le président américain Donald Trump a promis de s'attaquer aux maladies mentales au lendemain de l'une des pires tueries dans un lycée américain. La question du contrôle des armes n'a pas été évoquée par le chef de l'État américain. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Au lendemain de la démission de Jacob Zuma, le Parlement sud-africain a élu aujourd'hui, sans surprise, Cyril Ramaphosa à la présidence du pays. La tâche du nouveau chef de l'État s'annonce difficile. Le point avec notre correspondante sur place, Patricia Huron.
Ce n'était plus qu'une formalité après la démission hier soir de Jacob Zuma sous la pression de son parti, l'ANC. Le Parlement a élu aujourd'hui Cyril Ramaphosa à la présidence de l'Afrique du Sud. Il devient le cinquième chef de l'État depuis la fin de l'apartheid et assurera cette fonction jusqu'aux élections nationales prévues l'an prochain. Cette élection du nouveau président fut sans surprise. Il n'y avait pas d'autres candidats. Les principaux partis d'opposition avaient appelé, sans vraiment y croire, à un scrutin national anticipé. Le groupe parlementaire des combattants pour la liberté économique sous l'impulsion de Julius Malema a d'ailleurs quitté l'Assemblée en signe de protestation. Mais avec ou sans le soutien de l'opposition, l'élection de Cyril Ramaphosa a été garantie puisque son parti, l'ANC, jouit de la majorité au Parlement. Demain, Cyril Ramaphosa prononcera le discours sur l'état de la nation, un moment important dans l'agenda du Parlement qui devrait indiquer les grandes lignes des politiques que le nouveau président compte mener. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Et qui est le nouvel homme fort de l'Afrique du Sud? Salwa Jafari nous dresse son portrait.
Sur des vieilles photos qui datent de 1992, on le voit souvent dans le flou à l'arrière-plan de Nelson Mandela. Aujourd'hui, Matamela Cyril Ramaphosa est sous les feux du projecteur. Issu d'une famille modeste, d'un père policier et d'une mère au foyer, ce riche homme d'affaires de 65 ans est l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. Étudiant en droit, engagé dès la première heure, il est emprisonné à plusieurs reprises pour terrorisme. Il participe à la fondation du Syndicat national des mineurs qui devient la plus grande centrale syndicale du pays. 1990, Nelson Mandela sort de prison. Cyril Ramaphosa est considéré par beaucoup comme l'artisan de sa libération. Mandela en fait son dauphin en le considérant, d'après ses mémoires, comme l'un des plus doués de sa génération. En 1997, il subit néanmoins le premier grand revers de son parcours politique lorsque l'ANC lui préfère Thabo Mbeki dans la course pour la direction du parti. En 1912, sans même faire campagne, Cyril Ramaphosa signe son retour en politique en accédant au poste de vice-président de l'ANC. Jacob Zuma fait appel à lui pour redorer son blason alors que les premières affaires de corruption commencent à émerger. Il est nommé vice-président du gouvernement en 2014. Dans la course à la présidence et en dépit d'un bilan mitigé du gouvernement, l'homme prend la tête des frondeurs anti-Zuma et axe sa campagne sur la lutte contre la corruption. Les Sud-Africains attendent donc de lui qu'il tourne cette page éclaboussée de l'histoire politique du pays pour sauver le parti de Mandela.
La police sud-africaine a par ailleurs annoncé avoir émis un mandat d'arrêt contre un membre de la famille des Gupta proche de Jacob Zuma. Au Togo, après plus de 6 mois de crise marquée par des manifestations de rue, le pouvoir et l'opposition se réunissent autour de la table des discussions. Kaila Ousson.
La réunion préparatoire comptant pour la première étape du dialogue politique a effectivement démarré cet après-midi à Lomé. Le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau CAR, Jean Kissi, le conseiller à la communication de Jean-Pierre Fabre, Éric Dupuis, et le conseiller spécial d'Achadam Tchikpi, Ouro Dikpa Tchatchikpi, représentent la coalition de l'opposition. Du côté du parti au pouvoir, sont autour de la table le secrétaire exécutif de l'Union pour la République Unie, Akleso Achole, la trésorière générale de Union, Chantal Digboni Tchegan, et le président du mouvement de la jeunesse Union, Malik Nachaba. Le gouvernement représenté par le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara et le ministre de l'administration territoriale Payadoa Boupessi. Les discussions tournent autour de l'évaluation des mesures d'apaisement entreprises par le gouvernement depuis des semaines qui ont consisté entre autres à la libération de certains prisonniers politiques. Cette rencontre va aussi déterminer les sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour du dialogue proprement dit. C'est en toute confiance que la coalition entame les discussions, a déclaré le chef de file de l'opposition. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
L'État du Sénégal réclame plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au maire de Dakar, Khalifa Sall, et à ses co-accusés jugés pour détournement de fonds publics. Khalifa Sall et 7 de ses collaborateurs sont jugés depuis le 23 janvier. L'accusation estime qu'ils ont produit de fausses factures censées représenter des achats de denrées alimentaires. Le réquisitoire du procureur est prévu demain et les plaidoiries lundi. En Éthiopie, le premier ministre Hailemariam Desalegn a démissionné. L'annonce a été faite par la radio nationale Yacouba Ouédraogo.
La radio d'État Fana a indiqué sur son compte Twitter que M. Hailemariam Desalegn a remis sa lettre de démission. Elle a ajouté que cette lettre a été acceptée par la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Cette décision doit toutefois être approuvée par le conseil exécutif de la coalition. Ces dernières semaines, les autorités ont libéré des centaines de prisonniers, dont des opposants et des journalistes, et ont abandonné les poursuites à leur encontre. C'était une promesse du premier ministre Hailemariam Desalegn, qui dit vouloir améliorer le consensus national. En 2015 et 2016, le pays a connu plusieurs manifestations antigouvernementales qui ont fait plus de 900 morts d'après la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Les manifestants, principalement Oromo et Amara, protestaient contre ce qu'ils qualifient de surreprésentation de la minorité des Tigréens au pouvoir. Ils réclamaient aussi plus de libertés individuelles.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au lendemain d'une fusillade meurtrière dans un lycée de Floride qui a fait 17 morts, le suspect âgé de 19 ans a comparu devant un juge cet après-midi. Le président américain Donald Trump, lui, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Anastasia Toudiash.
Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait à Parkland pour, je cite, « rencontrer les familles et les forces de l'ordre et continuer à coordonner la réponse fédérale ». Le président américain a également promis de s'attaquer au difficile problème des maladies mentales. Dans un tweet ce matin, il avait qualifié le tireur de « déséquilibré mental ». Il n'a fait aucune référence aux armes à feu alors que le tireur a utilisé une arme semi-automatique. S'adressant à la jeunesse américaine, il a ajouté « Si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers un professeur, un membre de votre famille, un agent de police ou un responsable religieux. Répondez à la haine par l'amour, répondez à la cruauté par la gentillesse. » Il a conclu disant que ce n'est pas suffisant d'agir pour avoir l'impression de changer les choses, il faut vraiment les changer.
Anastasia Toudiash, Washington n'a jamais donné d'armes lourdes à la principale milice kurde de Syrie, les unités de protection du peuple. C'est ce qu'a affirmé à Beyrouth le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, et attendu plus tard en Turquie. La milice des YPG, classée groupe terroriste par Ankara, a été un allié incontournable des États-Unis dans la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie. 5 Russes ont a priori été tués et plusieurs autres blessés dans des frappes de la coalition menée par les États-Unis la semaine dernière dans l'est de la Syrie, ce qu'a indiqué la diplomatie russe, précisant que les victimes ne font pas partie de l'armée russe. Puis le ministre omanais en charge des affaires étrangères, Youssef Ben Alaoui, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées. Il s'agit d'une rare visite de la part d'un responsable arabe au troisième lieu saint de l'islam à Jérusalem-Est, annexé par Israël.
Et puis, le premier ministre grec Alexis Tsipras dénonce la rhétorique agressive de la Turquie après l'incident naval récent en mer Égée. Il souligne que les provocations contre un pays membre de l'Union européenne visent toute l'Union européenne. Alexis Tsipras a appelé la Turquie à respecter les règles de base du droit international. Un patrouilleur grec a subi des dégâts après avoir été percuté par un bateau de la marine turque en mer Égée orientale, près d'une île que se disputent les deux pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Jean-Roger Bion.
Le Parlement angolais a adopté mercredi le budget 2018 de l'État, estimé à environ 45,69 milliards de dollars. L'État angolais prévoit pour cette année une croissance économique de l'ordre de 4,9%. Le gouvernement a annoncé la possibilité de revoir les priorités et la nécessité de réduire une dette publique estimée à 38,06 milliards de dollars. La politique de réduction de la dépendance de l'économie par rapport au pétrole devrait permettre de booster la croissance économique. La Suisse vient d'accorder au Tchad un appui de 107 millions de dollars. Ces fonds serviront à renforcer les secteurs de la citoyenneté, l'éducation et l'agriculture de 2018 à 2021. Cet appui se situe dans le cadre du plan national de développement présenté lors de la table ronde de Paris sur le Tchad. Et la bourse de New York évolue en hausse en début de séance jeudi, confirmant le regain d'appétit pour le risque. En dépit du niveau toujours élevé des rendements obligataires, les investisseurs relativisent les tensions inflationnistes. Les craintes liées à une accélération du rythme du resserrement des politiques monétaires semblent s'apaiser et Wall Street évolue en hausse pour la cinquième séance d'affilée.
Et c'est le dernier rendez-vous pour les sports ce soir. Yacouba Betraogo, rebonsoir.
Rebonsoir Abdourahman.
L'Europa League ce jeudi, les matchs des 16e de finale sont en cours.
Tout à fait Abdourahman, ça va très vite, hein, à quelques 5 minutes de la fin. L'Olympique de Marseille mène 3-0 au Vélodrome face à Braga avec un doublé de Valère Germain, doublé également pour Mario Balotelli de l'OGC Nice et pour Fernandez du LOK de Moscou. 2-3 au score pour les Russes, 3-0 pour Arsenal devant les Suédois d'Östersund, 3-1 pour l'Atlético Madrid face au Sparta de Moscou, 2-2 entre l'Atalanta Bergame et Dortmund, 2-0 pour le Milan AC qui fait face à Ludogorets, 2-1 pour la Real Sociedad devant Red Bull Salzbourg. Un peu plus tard, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann se rendra sur le terrain du FC Copenhague et le Celtic Glasgow recevra le Zénith Saint-Pétersbourg. L'Olympique Lyonnais fera face à Villarreal. Un peu plus tôt, le Sporting Club de Lisbonne a supplanté Astana à domicile 3-1.
Liverpool, presque déjà en quart de finale en Ligue des Champions.
Les Reds sont allés s'imposer 5-0 à Porto en match aller. Sadio Mané a ouvert la marque à la 25e minute avant que Mohamed Salah ne double la mise pour Liverpool. 4 minutes plus tard, Mané a signé son deuxième but de la soirée peu avant l'heure de jeu. Avant de signer le triplé en fin de rencontre, il est devenu le premier Sénégalais à réaliser un triplé en Ligue des Champions. Pour rappel, le PSG s'est incliné 1-3 sur le terrain du Real Madrid en match aller des huitièmes de finale. Grosse désillusion pour le PSG qui s'était avancé avec l'ambition de frapper un grand coup chez le double tenant du titre.
Football sur le continent, la RD Congo qui monte sur le podium du classement FIFA.
Tout à fait Abdourahman, les Léopards précédemment 5e double l'Égypte et le Maroc pour se retrouver sur le podium derrière la Tunisie et le Sénégal. Lyon de l'Atlas et Pharaon complètent le top 5. Sur le plan mondial, l'Allemagne domine les débats, elle est suivie du Brésil et du Portugal.
Et puis les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés pour Mathilde Amévi Petitjean.
Malheureusement Abdourahman, l'unique athlète togolaise engagée dans la compétition est une nouvelle fois passée à côté de sa seconde épreuve, le 10 km libre féminin. Sur 90 athlètes au départ, Petitjean a terminé sa course à la 83e place avec 7 minutes 34 secondes de retard sur la médaille d'or. La Norvégienne Haga qui s'est imposée en 25 minutes devant la Suédoise Charlotte Kalla. Petitjean, on le rappelle, avait déjà manqué le sprint classique fin mardi dernier en échouant dans les qualifications pour son entrée dans la compétition.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa s'est engagé devant le Parlement à éradiquer la corruption qui mine le pays. Il a été officiellement élu aujourd'hui à la suite de la démission hier soir de son prédécesseur. Ramaphosa a indiqué qu'il donnera demain les détails de certaines de ses propositions. Alors pour analyse, Eric Manelakiza a joint à Johannesburg, à Pretoria plutôt, Lizolo Vaudran et les chercheuses à l'Institut d'études de sécurité.
Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique du Sud. Après 10 ans presque de règne de Jacob Zuma, beaucoup de gens autour de Jacob Zuma ont été accusés de corruption. Et donc, Ramaphosa vraiment mène avec lui un vent d'espoir parmi même l'opposition. Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays, encourager les investissements, redorer le blason d'un pays qui a tous les potentiels. Et Sunas Mandela est à Bombay, qui était vraiment sur des bons rails. Mais ça ne va pas être une tâche facile du tout, parce que il y a des problèmes structurels dans l'économie sud-africaine. Il y a le chômage, il y a des problèmes dans le secteur minier, chômage des jeunes. Aussi, on a un grand problème dans notre système d'éducation qui sont profondes et qui vont être très difficiles à améliorer sur le court terme. Mais au moins, aujourd'hui, tout de suite, la bourse de Johannesburg a explosé aujourd'hui. Le rand de la monnaie a gagné en valeur. Au moins, il y a un espoir de nouvelle époque.
Ramaphosa, il était vice-président de Jacob Zuma. Comment peut-on percevoir ce changement comme un renouveau?
Ça, c'est une question que on pose souvent, mais lui-même personnellement n'a jamais été accusé de corruption. Il n'est pas du tout impliqué dans des scandales autour de Jacob Zuma. Donc, on va voir dans les prochains jours. Beaucoup d'analystes pensent qu'il y aura un nouveau gouvernement avec plusieurs nouveaux ministres. Donc, Cyril Ramaphosa va être obligé de nettoyer un peu autour de lui dans les rangs de l'ANC et mettre ses hommes et ses femmes qui sont de son camp au gouvernement. Sinon, ça ne va jamais marcher parce que ça va être une équipe divisée, profondément divisée d'ailleurs.
Quelle leçon faut-il tirer?
La démocratie est unique et le système gouvernemental électoral est aussi unique. Et je pense qu'on va beaucoup réfléchir sur ce système. Vous voyez, c'est pas un système présidentiel, donc nous n'avons pas des élections présidentielles. Tout repose sur le parti et quelque part, le pays tout entier est parfois pris en otage par le parti au pouvoir.
C'était Lizolo Vaudran de l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est sur fond de manifestations antigouvernementales qu'Hailemariam Desalegn, premier ministre éthiopien, a présenté sa démission ce jeudi, une démission qui a surpris beaucoup d'observateurs. Et pour analyse, Ekiabadou a joint à Paris Roland Marshall, analyste politique.
Il est quelqu'un qui a grandi dans l'ombre du principal dirigeant. Il fait l'effet plutôt d'un technocrate plutôt que d'un politique. Et surtout, il n'est pas originaire de cette génération qui s'est battue contre le régime précédent. Appartient également à un groupe ethnique dans le sud-ouest du pays qui est considéré comme marginal par rapport aux grands groupes ethniques que sont les Amaras, les Oromos et puis politiquement évidemment les Tigréens. Et lui-même à un contrôle relatif de l'appareil de sécurité. Alors comment faut-il comprendre sa démission? Je crois qu'il y a aujourd'hui une reconnaissance assez large au sein des cercles du pouvoir éthiopien qu'il va falloir faire des réformes d'ampleur, que de toute façon la répression ça ne pourra plus fonctionner très longtemps. Le coût humain est énorme. L'aura dont bénéficiait l'Éthiopie dans la communauté internationale s'est considérablement réduit à cause des dizaines de milliers d'emprisonnements et des centaines, sans doute des milliers morts dues à la répression. Il apparaît donc très clairement dans le camp des gens qui veulent plutôt une ouverture.
Il y a eu énormément de libérations, de centaines de prisonniers. Comment du coup interpréter cette issue ?
Elles ne sont pas totales, contrairement à ce qui avait été annoncé immédiatement. C'est un peu à reculons. Les manifestations continuent, la répression continue. Il ne faut pas penser que c'est le printemps éthiopien. C'est une chose de libérer des blogueurs célèbres ou le dirigeant d'un parti politique d'opposition, c'en est une autre de laisser ces blogueurs et ces partis politiques opérer, suivant la Constitution, évidemment légalement. Enfin, il faut quand même se rendre compte que l'ère de Staline est révolue. Cette ère-là doit être révolue partout dans le monde et pas simplement en Corée du Nord.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement va essayer d'introduire toute la diversité éthiopienne ?
Il y a beaucoup de réticences. C'est un pouvoir qui règne sur l'Éthiopie depuis 2011 de façon incontestée, qui se rend compte que finalement il va être obligé de faire des réformes. Tout ça n'est pas accepté très, très facilement. Et on voit la télévision d'État commence à tout d'un coup rendre compte de manifestations. Alors, elle montre des images qu'elle n'a jamais montrées dans les 27 ans de pouvoir. On voit qu'il y a des choses qui se passent, ça reste trop timoré. Les déguisements des contradictions à l'intérieur du régime va se poursuivre dans les mois qui viennent. En sortant du jeu maintenant, le Premier ministre se donne peut-être les moyens de rentrer plus tard par la grande porte à nouveau dans ce qui serait un régime de transition en Éthiopie.
C'était l'analyste politique Roland Marshall, joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Après la nouvelle fusillade dans un lycée en Floride hier qui a fait 17 victimes, le débat sur les armes à feu est relancé aux États-Unis. Le président Donald Trump a appelé les citoyens américains à signaler davantage aux autorités tout comportement suspect, mais n'a pas fait référence au contrôle sur l'accès aux armes. Claire Morin-Jubourg a joint le consultant politique René Lecq.
Vous savez, c'est une question à chaque fusillade. Chaque fois qu'il y a un problème de cette nature, c'est la question qui revient à l'ordre du jour. C'est la question qui est posée par tout le monde. Mais malheureusement, on a peu de réponses positives, peu de réactions même positives. J'ai vu que ce matin, Marco Rubio, le républicain sénateur de Floride, lui-même disait « Oh, écoutez, c'est pas le moment de poser ce débat-là ». Donc chaque fois qu'il y a une fusillade de ce type-là, les républicains considèrent qu'au fond, c'est pas le moment de parler de la question du contrôle des armes. Et la réponse de l'autre côté, du côté des démocrates, c'est de dire « Mais écoutez, pour les républicains, ce n'est jamais le moment ». Alors, je peux vous dire que, regardez, rien qu'en 2018, il y a eu, c'est la 18e fusillade de cette nature. Ça veut dire qu'on a 18 fusillades en 6 semaines. Parce qu'il y a 2018, il n'y a eu que 6 semaines. Ça fait donc 3 fusillades par semaine, une toutes les 60 heures. C'est absolument ahurissant. Et malgré tout cela, ça ne bouge pas, le débat n'est... Les républicains n'acceptent même pas de poser le débat. Donc, il est très difficile d'avancer sur cette question.
Alors, quels sont les blocages majeurs ?
Je crois que, vous savez, il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème politique. La NRA, la National Rifle Association, qui est l'Association nationale des utilisateurs d'armes à feu ici aux États-Unis, est une organisation extrêmement puissante qui finance énormément les activités politiques des gens qui sont favorables justement à un minimum de contrôle, à une absence de contrôle, on pourrait dire, des armes à feu aux États-Unis, donc en général des républicains, parfois même un peu extrémistes. Et donc ils soutiennent ces campagnes-là, ils les soutiennent financièrement. La NRA est extrêmement puissante, a énormément de moyens financiers. Donc même sur des questions, par exemple la question du background check, les enquêtes préliminaires avant de pouvoir acheter des armes, 90% de la population aux États-Unis soutient cela. Mais comme la NRA ne le soutient pas, les républicains, même cette une décision aussi simple, ne sont pas prêts à l'accepter, ne sont pas prêts à pousser pour faire en sorte que des réformes législatives puissent permettre d'en arriver à cela. Donc au plan politique, la NRA est tellement puissante et tellement forte
que cela fait un peu peur, cela empêche beaucoup de républicains de prendre position, y compris sur des questions aussi banales et aussi simples que des enquêtes préliminaires.
C'était le consultant politique René Lake, ici à Washington.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
Raga. Raga. Sed. Séduction. Cyclone rouge. Unikatale. Choka lwangu mambo ya kila shiku barinyo na fulani mina kuya samari mileo on se moque de moi partout mes amis.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elle était réalisée par Joselle Morissin à la console Nashwal Kale. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Début février, les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation des services et articles de défense en direction du Soudan du Sud. Les États-Unis ne vendent pas directement des armes au Soudan du Sud, mais cet embargo empêchera les compagnies américaines ou des citoyens des États-Unis de fournir des équipements ou services militaires aux factions en guerre dans ce pays. Les exportations d'armes et des munitions au Soudan du Sud sapent les efforts de protection des civils. L'embargo sur les ventes ou transferts d'armes vise à accentuer la pression sur le gouvernement sud-soudanais et l'opposition armée pour qu'ils appliquent l'accord de cessation des hostilités du 21 décembre. L'objectif est d'amener les parties en conflit à mettre un terme au traumatisme et au déplacement dont sont victimes des millions d'innocents sud-soudanais. Le Soudan du Sud a obtenu son indépendance du Soudan en 2011. La paix a duré moins de 18 mois. En décembre 2013, une lutte de pouvoir entre le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar s'est transformée en guerre civile. Les parties en conflit ont conclu un accord de paix en 2015 et beaucoup de cessez-le-feu. À peine signé, tous les accords ont été violés. Les combats ont fait des milliers de morts et provoqué une réduction de la production de pétrole brut. L'économie s'en est trouvée dévastée. Les pays ont connu des violations des droits humains, la famine et la malnutrition. Les États-Unis sont horrifiés par la poursuite des violences au Soudan du Sud, avec pour conséquence l'une des pires crises humanitaires d'Afrique, a indiqué la porte-parole du gouvernement d'État, Heather Nauert, dans une déclaration écrite. 1,5 million de personnes sont au bord de la famine en dépit d'énormes efforts consentis par les États-Unis et d'autres donateurs depuis le début du conflit en 2013 pour éviter la famine et sauver des vies, a souligné Mme Nauert. Nous exhortons tous les pays, y compris les voisins du Soudan du Sud, à promouvoir la paix et sauvegarder des vies innocentes en bloquant l'entrée des articles et services des défenses au Soudan du Sud et aussi à cesser tout soutien aux personnes œuvrant en vue de déstabiliser le pays. Nous encourageons l'autorité intergouvernementale pour le développement et l'Union africaine à envisager des sanctions contre ceux qui sapent le processus de paix. En outre, les États-Unis cherchent des soutiens pour un embargo du Conseil de sécurité de l'ONU contre tout envoi d'armes au Soudan du Sud. Nous exhortons tous les membres du Conseil de sécurité à se joindre à nous en appuyant cette action. Le message doit être clair. Les États-Unis, la région et la communauté internationale ne resteront pas les bras croisés alors que d'innocents Sud-Soudanais se font massacrer.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.
Bienvenue à